Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères, mes bien chers amis. Il nous faut bien sûr parler aujourd'hui du grand Saint-Joseph, Monseigneur Saint-Joseph, comme l'appelait beaucoup de saints, le grand silencieux de l'Évangile. Rappelez-vous que Sainte Thérèse d'Avila disait, il n'y a pas une seule chose que je n'ai demandé à Saint-Joseph que je n'ai obtenue le jour de ses fêtes. Il est un peu assombri, je ne dis pas assombri, mais je dirais caché évidemment par la dévotion à la très Sainte Vierge Marie. Mais n'oublions pas que Saint Joseph est le patron de l'Église universelle. C'est pas rien. Quelle responsabilité. Patron de toute l'Église universelle. Il est le grand silencieux de l'Évangile, on appelle aussi le grand priant de l'Évangile. Il n'y a pratiquement, il n'y a même pas de parole de lui dans l'Évangile, ça ne veut pas dire qu'il parlait jamais, mais il était certainement quelqu'un qui était d'une grande discrétion. Il avait la charge de la Sainte Famille, alors qu'il était le moins saint des trois. Là, encore une fois, c'est des mystères absolument incompréhensibles. Le bon Dieu a voulu s'humilier, non seulement en prenant notre humanité, dans le sein de la Sainte Vierge Marie, le 25 mars, mais il a voulu, dans la Sainte Famille, que le moins saint des trois soit celui qui dirige. Il faut souvent penser à ça, surtout dans les difficultés habituelles des ménages. Il n'y a pas un seul ménage sans certaines difficultés, évidemment. Vivre ensemble, même dans l'état de mariage, ce n'est pas une chose facile, comme vous le savez très bien mieux que moi. Mais il faut se rappeler cette chose qui me semble très importante. Le bon Dieu a voulu que ce soit Saint-Joseph qui dirige. Et Saint-Joseph a donné des ordres. Saint-Joseph a donné des ordres à la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie aurait pu dire, moi je suis Immaculée Conception, donc je suis bien au-dessus de vous, donc c'est moi qui commande. Non. Le bon Dieu aurait pu dire, moi je suis notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est moi qui commande. Non. Le bon Dieu s'est effacé, la Très Sainte Vierge Marie s'est effacée aussi pour laisser justement l'autorité à Saint-Joseph. Donc il faut se rappeler ces choses-là justement quand il y a ces difficultés inhérentes au mariage, à l'état de mariage, donc de ne pas croire que parce que le mari a peut-être certains défauts, parce que les maris ne sont pas parfaits comme tout le monde, eh bien ça veut dire qu'ils n'ont plus l'autorité dans la famille. Et il faut se rappeler ces choses-là. On peut trouver surtout dans l'épître et l'évangile d'aujourd'hui, parce qu'il y a deux épîtres, deux évangiles aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit, il y a mémoire du cinquième dimanche après Pâques et dernier évangile du cinquième dimanche après Pâques à la fin de la messe. Il est dit que tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je vous l'obtiendrai. Demandez, vous recevrez. Rappelez-vous la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et la porte sera ouverte. C'est évident que si on n'ouvre pas, si on ne cherche pas, si on ne demande pas, on n'obtient rien du tout. Donc le bon Dieu, il a dit expressément dans l'Évangile, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Bon, évidemment, il ne faut pas croire non plus qu'on peut demander n'importe quoi. Donc, il faut demander au Père céleste au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire selon l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens qui sont comme ça, surtout parmi les jeunes, ils ont un examen à passer, bon, on va vite faire une neuvaine à Saint-Joseph parce qu'on n'a pas travaillé ces examens. Dieu ne va pas faire du miracle. Le bon Dieu ne va pas permettre que vous réussissiez votre examen si vous n'avez pas travaillé pour le réussir, c'est absolument évident. Il y a aussi une autre erreur qu'on fait souvent, c'est que dès qu'on a la moindre petite croix qui nous tombe dessus, tout de suite on dit au bon Dieu, il faut m'enlever cette croix s'il vous plaît, alors on prie pour que la croix disparaisse et se volatilise. Bien non, pas du tout. Et ce qu'il faut, c'est avoir le courage de dire au bon Dieu, ça c'est pas facile, mon Dieu, que votre volonté soit. Souvent, on rajoute certaines conditions. On dit, mon Dieu, que votre volonté soit faite, mais à condition que j'aime bien, c'est votre volonté. À condition que je sois d'accord. Mon Dieu, que votre volonté soit faite, à condition que je comprenne votre volonté. Sous-entendu, si je ne la comprends pas, sous-entendu, si je ne l'aime pas, bon, je ne la fais pas. Je ne suis pas la volonté du bon Dieu. C'est facile de suivre la volonté du bon Dieu quand la volonté du bon Dieu correspond à un autre. C'est facile de suivre la volonté du bon Dieu quand la volonté du bon Dieu est quelque chose qu'on aime, quelque chose de facile à suivre. Mais le bon Dieu, justement, demande de nous humilier, de suivre sa volonté, même quand on ne la comprend pas, même quand on ne l'aime pas. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce à lui-même et qu'il me suive. Imaginez-vous un peu, mettez-vous dans. Il faut se mettre un petit peu dans la peau de Saint Joseph. Tout c'est le grand mystère qu'il a dû partager et qu'il n'a pas pu comprendre complètement. C'est impossible. Saint Joseph n'avait pas la science infuse. Tout c'est mieux non plus d'ailleurs. Elle connaissait beaucoup plus de choses que nous, c'était évident, parce qu'elle passait. Elle a passé des années à éduquer notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité, mais elle ne comprenait pas tout. Est-ce que notre Seigneur Jean-Marie, est-ce que Saint Joseph ont pu comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, apparemment, je dis bien apparemment, presque désobéisse quand il a 12 ans et resta au temple de Jérusalem sans prévenir qu'il était resté là-bas pour enseigner les docteurs? Est-ce que vous dévoilez la tête de Saint Joseph? Qu'est-ce que Saint Joseph a dû penser quand. Alors qu'il arrivait pour payer la taxe le jour de Noël et puis qu'il n'arrivait pas à trouver même le moindre local pour pouvoir faire naître notre Seigneur Jésus-Christ, pour que notre Seigneur Jésus-Christ ait au moins un toit à se mettre au-dessus de la tête et pour pouvoir naître tranquillement parmi nous. Il arrive, il cherche rien, rien, rien. Est-ce qu'il s'est découragé? Ben non, il ne s'est pas découragé, il ne comprenait pas le mystère, mais il s'est tu devant ce mystère. Et l'enfant est né dans la crèche. Et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, les choses s'arrangeaient un petit peu. Voilà que l'ange vient prévenir, il faut prendre l'enfant, il faut prendre la mère, et vous partez en Égypte, un pays païen. Des centaines de kilomètres de là, sans aucun moyen, en plus avec une langue étrangère à apprendre, sans aucun moyen, le bon Dieu n'a pas expliqué comment il allait s'en tirer là-bas sur place. Il part, il ne comprend pas, il part. Il n'aimait certainement pas la volonté du bon Dieu dans ce cas-là. Et ça ne correspondait certainement pas à la sienne, et bien il est parti. C'est ça la grandeur de Saint Joseph. La grandeur de Saint Joseph, c'est justement cette vertu de docilité. Et c'est parce que Saint Joseph a eu cette vertu de docilité qu'il a pu justement s'élever à un tel degré de sainteté. Parce qu'il a été docile, parce qu'il a été fidèle dans les petites choses, il va devenir évidemment fidèle dans les grandes. Et il y a dans le texte aussi de Saint Jacques qu'on trouve, l'épître de Saint Jacques qu'on trouve donc au cinquième dimanche après Pâques qui jouxte la fête de Saint Joseph. Donc il faut utiliser aussi ces textes liturgiques. On trouve aussi bien des avertissements qui nous regardent et qui vont nous aider justement à tenir, à conserver la foi. Qu'est-ce que nous dit Saint Jacques? Il nous dit beaucoup de choses. Il nous dit si. Vous écoutez la parole du bon Dieu, mais vous ne la mettez pas en pratique, dit-il. Vous allez devenir comme un homme qui se regarde dans un miroir. Il regarde son visage dans un miroir, et puis il s'en va, il oublie tout ce qu'il a vu, parce que l'image est disparue dans le miroir. Donc le bon Dieu ne nous demande pas simplement, c'est la signification du texte, le bon Dieu ne va pas nous demander simplement d'écouter la parole du bon Dieu, ça ne suffit pas. Il faut la mettre en pratique. Et ce qu'a fait précisément Saint Joseph, il ne s'est pas contenté d'écouter la parole du bon Dieu, de connaître les Saintes Écritures, il a tout mis en pratique pour la vertu de charité. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui écouteront la parole de Dieu et la mettront en pratique. Écouter la parole de Dieu, ça correspond à la foi. Mettre en pratique cette parole de Dieu, ça correspond à la charité. N'oubliez pas que le jour de notre mort, nous serons jugés non pas sur notre foi, mais sur la charité, sur le degré de charité. Ce degré de charité est tellement important, et c'est saint Thomas d'Aquin qui explique très bien ça, que ce degré de charité qui doit être nôtre dans notre cœur le jour de notre mort est tellement important que nous aurons une place au ciel en fonction de ce degré de charité. Donc quelqu'un qui aime beaucoup notre Seigneur Jésus-Christ, et qui a un haut degré de charité aura une place au ciel infiniment supérieure à une personne qui a peut-être eu une science extraordinaire, une intelligence extraordinaire, un enseignement extraordinaire, mais qui avait un degré de charité qui était moindre. Donc il faut demander au bon Dieu justement la grâce d'avoir cette charité, de savoir mettre en pratique notre foi tous les jours. Beaucoup trop de gens dans le monde moderne pensent que la foi seule sauve. Non, ça c'est du protestantisme. On n'est pas sauvé par la foi. Encore une fois, le démon croit, c'est pas ça qui va le sauver. Donc il faut pas simplement la foi, il faut la pratique de la foi. La pratique de la foi, c'est quoi? C'est la vertu de charité. C'est intéressant de voir que dans le catéchisme de Saint Pie X, quand Saint Pie X veut définir l'Église, Et quand il parle des conditions justement d'appartenir à l'Église, la deuxième qu'il donne, c'est la foi, la pratique de la foi. C'est pas comme on peut entendre dire la foi, non. La pratique de la foi, c'est-à-dire la mise en pratique de la foi par la vertu de charité. Sinon, notre foi va rester quelque chose de tout à fait déconnecté de la réalité. Il faut la mettre dans la vie de tous les jours. Le bon Dieu nous jugera non pas sur ce qu'on a dit ou sur ce qu'on a cru, le bon Dieu nous jugera sur ce qu'on a fait. Est-ce que dans la pratique, j'ai suivi la volonté du bon Dieu? Et c'est pour ça que Saint Joseph a obtenu du bon Dieu un degré de gloire extraordinaire. Il a obtenu du bon Dieu un degré de gloire extraordinaire, précisément à cause de cela. Il a obtenu un degré de gloire extraordinaire parce qu'il a eu cette docilité à se maintenir dans la charité. Il ne s'est pas contenté de parler, il ne s'est pas contenté d'écouter, il a aussi agi. Comment a-t-il agi? En suivant ce que demandait le bon Dieu. L'ange demande de partir, je pars. L'ange demande de faire telle chose, je pars. Sa Sainte Vierge Marie revient après sa visite à Sainte Élisabeth, elle est enceinte. Peut-être qu'il n'a pas compris, les pères de l'Église ne sont pas tous d'accord entre eux pour savoir ce qui s'est passé en Saint-Joseph. Vraisemblablement, dans ce cas-là, Saint-Joseph s'est douté que la Sainte Vierge Marie avait été fécondée par le Saint-Esprit, qu'elle était devenue la mère du bon Dieu. Mais il est certain que beaucoup de pères de l'Église parlent aussi d'un doute de Saint-Joseph. Un doute, non pas qu'il a eu méfiance à l'égard de son épouse, mais ce que non, il savait l'immense sainteté de Saint-Joseph, mais un doute dans le sens qu'il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Mais il s'est soumis tout de suite. Non, je ne comprends pas, j'attends, j'aurai les explications plus tard. Et il y a eu les explications plus tard, un ange est venu et a dit à Saint-Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, sous ton toit, parce que l'enfant qui naît, qui grandit dans son sein, est le fruit du Saint-Esprit. C'est vrai, c'est très intéressant de voir encore là, vous voyez, l'ange qui vient avertir Saint-Joseph, c'est Saint-Joseph qui vient avertir, parce qu'il faut quitter la terre promise, la Palestine, pour aller en Égypte. Il ne va pas avertir l'enfant Jésus directement, il ne va pas avertir la Très Sainte Vierge Marie directement, il va avertir le chef de famille, à savoir Saint-Joseph lui-même. Et une autre réflexion dans ce texte de Saint-Jacques qui est magnifique, il est dit que si je suis la loi parfaite de la liberté, à ce moment-là, j'aurai une joie dans tout ce que je fais, un plaisir dans tout ce que je fais. Ça veut dire quoi? C'est que si je suis la véritable, je comprends ce qu'est la véritable liberté, à ce moment-là, cette liberté, la liberté du bon Dieu va me libérer. Et je vais trouver, par cette libération, je vais trouver justement le moyen de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, quand on explique ça aux jeunes, ils comprennent. Mais la liberté, monsieur l'abbé, c'est le droit de faire ce que je veux. Je suis majeur et vacciné, donc je fais ce que je veux, c'est ça la liberté. Mais c'est pas du tout ça la liberté. Donc Dieu n'a jamais donné ce genre de liberté aux catholiques. Les hommes n'ont pas ce genre de liberté. La plupart du temps, quand on veut essayer de faire ce qu'on veut, on va droit dans le mur. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Notre liberté, ce n'est pas du tout donc le droit de faire ce que je veux. La liberté, c'est le pouvoir que j'ai en mon âme de choisir le meilleur chemin pour atteindre la fin qui m'est imposée. Le bon Dieu impose la fin. C'est lui qui est le patron, c'est lui qui donne la direction à suivre, c'est lui qui indique le point d'arrivée dans les différents chemins qui mènent à ce point d'arrivée qui est obligatoire pour chacun d'entre nous. J'ai un choix, ce qu'on appelle la liberté. Donc, la liberté, encore une fois, n'a rien à voir avec la licence dont on parle tout le temps. C'est pour ça qu'il y a tellement de confusion au niveau, surtout au niveau des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont confondu liberté de licence. Ah, si on n'avait pas le péché originel, oui, ce serait valable. Pour ceux qui n'ont pas le péché originel, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas la tâche du péché originel, qui n'ont jamais reçu, vous auriez le droit de dire je fais ce que je veux. Mais à ma connaissance, il n'y en a qu'une qui a eu cette grâce insigne de ne pas avoir la tâche du péché originel. C'est la Très Sainte Vierge Marie. Donc pour la Très Sainte Vierge Marie, je dirais, pour elle, parce que justement elle n'avait pas la corruption du péché originel, elle avait justement été pleine de grâce. Donc pour elle, elle pouvait dire, je peux faire ce que je veux, dans le sens que tout ce que la très sainte Vierge Marie voulait correspondait toujours immédiatement à la volonté du bon Dieu. Il y avait une espèce d'égalité parfaite entre la volonté de la très sainte Vierge Marie et la volonté du bon Dieu. Et en nous, ce n'est pas comme ça. En nous, ce n'est pas comme ça parce qu'il y a en nous cette révolte constante qu'on appelle les concupiscences. Concupiscence de la chair pour malheureusement se lancer dans les péchés contre la pureté, concupiscence des yeux pour essayer de tout posséder, et concupiscence de l'orgueil qui essaie de nous placer sur un piédestal. Et c'est là encore une fois la grandeur de Saint Joseph. Saint Joseph, attention, Saint Joseph avait le péché originel. Il avait le péché originel, bon, qui bien sûr était purifié en lui, puisqu'il est au ciel, on ne peut pas rentrer au ciel avec le péché originel. Donc son péché originel a été purifié en. Vraisemblablement, Saint Joseph a dû être baptisé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pas dans l'Évangile. Mais on voit très bien que Saint Joseph, qui n'avait pas cette science, qui n'avait pas la science infuse, bien sûr, Saint Joseph qui ne connaissait pas tout, Saint Joseph qui aurait pu avoir une certaine révolte, si je peux m'exprimer ainsi, certaine révolte de choses qu'il ne comprenait pas dans les ordres de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a sauvé Saint Joseph? Cette extraordinaire docilité. Et comme notre Seigneur Jésus-Marie, qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Notre Seigneur Jésus-Marie, qui l'ange lui apparaît pour l'annoncer qu'elle va devenir la mère du Sauveur, et là encore une fois, elle ne comprend pas parce qu'elle se dit, mais attends, je suis sous votre chasteté, comment cela sera-t-il possible? Alors l'ange lui donne la clé, lui donne l'explication. Votre vœu sera conservé, vous pourrez conserver votre virginité. Vous serez vierge avant, pendant et après la naissance. Alors à ce moment-là, elle dit cette phrase extraordinaire, qu'il soit fait en moi selon votre parole. Et c'est ce qu'il faut pouvoir dire après chaque communion. Après avoir reçu la Sainte Communion, qu'est-ce qu'il faut dire au bon Dieu? Il faut dire au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Vous pouvez très bien utiliser les paroles de l'Angélus, par exemple, pour faire votre action de grâce après la messe. C'est une magnifique façon de faire l'action de grâce. Vous recevez notre Seigneur Jésus-Christ, et bien c'est un petit peu, vous renouvelez d'une certaine façon, analogiquement, si vous voulez, allégoriquement, vous renouvelez d'une certaine façon le mystère de l'incarnation. Je suis la servante du Seigneur. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie, et a conçu par la soupération du Saint-Esprit. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et quand on communie, le Verbe se fait chair en nous, le même Verbe qui va prendre chair dans le Saint-Très-Pur de la Vierge Marie, d'une certaine façon va s'unir à nous, notre Seigneur Jésus-Christ s'unit à notre divinité, à notre humanité, il unit sa divinité à notre humanité à chaque fois que nous communions. Alors attention, il y a un dernier conseil de Saint Jacques dans son épître. Il dit bien justement que celui qui suit notre Seigneur Jésus-Christ doit, dit-il, se garder pur de la souillure du monde. Donc que les gens qui ne connaissent pas Dieu, que les gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, que les gens qui veulent suivre l'esprit du monde se vautrent dans le péché à longueur de journée, c'est une chose malheureusement parfaitement compréhensible. Mais qu'un chrétien racheté par la grâce sanctifiante du bon Dieu, un catholique qui a tous les moyens justement de rester en état de grâce, parce qu'il a l'accès à la Sainte Confession quand il le désire, il a accès justement à la communion aussi pour augmenter en lui la vertu de charité, qu'un catholique se vautre dans le péché, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. C'est pour ça que le même péché commis par un catholique est bien plus grave que le même péché commis par un païen. Pourquoi? Parce que le catholique a beaucoup plus de lumière. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie, et aussi demandons à Saint Joseph le jour de sa fête, demandons cette grâce. Rappelez-vous là ce que disait Saint Thérèse, il n'y a pas une seule grâce que je n'ai demandée le jour de sa fête que je n'ai obtenue. Demandons ces grâces. Et quelles sont les grâces qu'il faut demander? Je pense que précisément cette première grâce qu'il nous faut demander, c'est certainement la plus difficile à demander. C'est la grâce de la docilité. Mon Dieu, aidez-moi à être docile. Donnez-moi un cœur docile pour que je puisse suivre votre volonté, même quand je ne l'aime pas, même quand je ne le comprends pas. Donnez-moi un cœur docile afin que je puisse ouvrir la porte de mon âme à la grâce sanctifiante et que cette grâce sanctifiante, illuminant mon cœur, m'explique justement ce que je dois faire, même quand je ne comprends pas. Et à ce moment-là, le bon Dieu va nous guider dans les épreuves, il va nous aider à porter notre croix. Regardez les grands saints, Saint Joseph le premier, le bon Dieu n'a pas enlevé les croix des grands saints. Et l'exemple classique, c'est Saint Paul, c'est tellement le plus grand saint de l'histoire de l'Église. Rappelez-vous Saint Paul qui avait une tentation, une épine dans sa chair, le texte sacré. Qu'est-ce que c'était que cette épine dans la chair? Dieu seul le sait, on ne sait pas, vraisemblablement une grande tentation contre la pureté. Et plusieurs fois, le grand Saint Paul demande, Seigneur, Seigneur, délivrez-moi de cette tentation me gêne, cette tentation est une croix trop lourde, m'empêche de prêcher, m'empêche de remplir mon devoir d'État, peut-être, enlevez-moi cette grâce, enlevez-moi cette croix qui est trop lourde pour moi, cette épine dans la chair est trop lourde, et que répond notre Seigneur, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Et le bon Dieu n'a pas enlevé cette croix à Saint Paul. Alors qu'en est-il de nous? Nous, dès qu'on a une petite croix, on se met en bon Dieu, en disant, mon Dieu, venez vite enlever cette croix. Ben non, on ne comprend pas justement que ce n'est pas la croix qu'on sanctifie, que ce n'est pas la croix qu'on imite notre Seigneur Jésus-Christ qui porte sa croix pour nous. Si notre Seigneur Jésus-Christ porte sa croix pour nous alors qu'il est innocent, ne soyons pas étonnés que nous, qui sommes coupables de péché, justement, eh bien, nous portions la nôtre. Donc demandons, nous ayons porté la nôtre, donc demandons avec beaucoup d'humilité toutes ces grâces par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie, bien sûr, mais aussi du grand Saint Joseph, le patron de l'Église universelle. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.